With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Est-ce qu'on est en ligne ou pas?
Bonjour Fibre Tigre.
Bonjour. On est en ligne, c'est bon?
On est en ligne, c'est parti.
Merci, vous avez vu le professionnalisme de cette émission. Ah bah en plus, là, je suis perturbé, on n'a pas fait notre cri, mais bon, c'est pas très grave, on le fera pendant le générique. Ouais. Bonjour et bienvenue dans Game of Rule, les deux tours, troisième épisode. Je suis très content d'être avec vous dans cette émission. Une émission qui est en fait en partenariat avec France Info. Nous sommes actuellement dans le studio 421 de France Info. Cette émission est, je le rappelle, un jeu de rôle avec des candidats fictifs dans des parties fictives. Et cette fois-ci, vous allez voir, il y a de la fiction, mais dans un contexte réaliste, incarné par Jules Dequisse, que je vais présenter dans quelques minutes. Autour de moi, j'ai à ma gauche Ken Bogart, ça va Ken?
Bonjour Fibre Tigre.
Bonjour. Alors, on est sur la chaîne de Clément Viktorovitch. On ne connaît pas forcément le fameux, famous Ken Bogart. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ken?
Je suis animateur pour une web TV. Je parle essentiellement de jeux vidéo dans une quotidienne où je décrypte l'actualité jeux vidéo tech tous les jours.
Spécialiste du jeu vidéo.
Spécialiste du jeu vidéo, on peut se dire entièrement commentateur e-sportif.
D'accord. Ce soir, on en parlera plus abondamment. Tu vas jouer un candidat écologiste.
Ouais.
Et l'écologie, parce que tu es quelqu'un qui a abandonné la voiture récemment.
Récemment, ça fait déjà 4 ans, mais ouais, on peut parler de récemment.
De,
ouais.
Géologique, c'est assez récent. Donc, alors je vais aller plus loin. Non seulement tu as abandonné la voiture, mais tu es devenu un fan de vélo.
Un fan de vélo, ouais, je suis devenu raisonnable. Un homme, un
160 km par jour, c'est la routine. C'est
oui,
ça, raisonnable. Et là, c'est
bien
pas une blague.
Bien sûr, évidemment. Voilà. Il faut savoir s'entretenir, Fib, d'ailleurs. Tu le sais bien.
Oui, on en parlera bientôt. À ta gauche se trouve Aurore. Ça va, Aurore?
Ça va.
Voilà. Aurore, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis députée européenne.
Est-ce que tu... Alors, c'est intéressant parce que tu es une personne qui va incarner un représentant politique autour dans ce jeu, ouais, qui est un petit peu fictif. Est-ce que tu es affiliée à un parti?
Je fais partie de Place Publique, dans la vraie vie.
Oui, dans la vraie vie, bien sûr.
Dans la vraie vie, je suis à Place Publique. Oui.
Place Publique, il est de quel bloc, on dirait?
Gauche-écolo.
Gauche-écolo, très bien. Donc, ce sera un rôle de composition ce soir.
Exactement.
Voilà. Et on te retrouve, si on est fan de toi, tu as des réseaux sociaux?
J'ai des réseaux sociaux.
Donc, sur Aurore Laluc, sur Twitter.
Exactement.
Voilà, parfait. Et très bien. Merci beaucoup, Aurore. En face de toi, Lame UA. Ça va, Lame?
Ça va bien depuis hier.
Ouais, très bien. On se verra peut-être demain. Lame, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis journaliste spécialisé en tech et je suis l'ex de Ken Bogard aussi.
C'est vrai que c'est mon ex.
Voilà, on était ex-professionnels. Voilà.
Oui, vous avez déjà travaillé ensemble. Le monde est tout petit. Et dis-moi, donc spécialiste, donc tes spécialités, la tech.
Oui.
D'ailleurs, là, ce ne sera pas un rôle de composition pour le coup ce soir.
Il y a une partie qui sera moi.
Un petit peu de jeux vidéo?
Un petit peu de jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo aussi, hein, voilà, bien sûr. Ça fait partie de la tech d'une certaine manière.
Et aussi Twitch, il faut en parler.
Et tous les jours, du voilà. Twitch. Lâchez vos subs, évidemment. Connaissez-vous Twitch Prime, tout ça.
Et enfin, notre hôte, alors que nous sommes les siens, Clément Viktorovitch, merci de nous accueillir sur ta chaîne, ça va?
Ça va, et toi Fibre Tigre, est-ce que tu savais que hôte était un des rares mots de la langue française qui a son sens et son contraire?
Eh bien, je viens de l'utiliser en ce sens.
Absolument. Voilà,
exactement. C'est un Game of Role de l'érudition ce soir. En tout cas, Clément, il travaille beaucoup en ce moment, parce que ouais, il passe d'un bâtiment à l'autre. Heureusement, Quotidien et Radio France, c'est en face. Voilà, ça se passe bien. Et tu fais d'autres choses sur ta chaîne Twitch. Il y a des gens qui nous ont récupéré ce soir qui disent: ah, j'aime trop Game of Thrones, je vais sur ta chaîne de Clément Viktorovitch. Mais ça vaut le coup de s'abonner à ta chaîne parce
absolument
que.
Parce que je stream régulièrement tous les vendredis soirs. On fait un peu d'analyse de l'actualité, un peu d'analyse de la politique, d'analyse de la manipulation. Voilà.
Et en général, tu débriefes sur ton personnage.
Et tous les vendredis, à la suite de Game of Thrones, je fais un retour sur l'émission Game of Thrones avec mon point de vue de chercheur, parce que moi, à la base, je suis chercheur en sciences politiques, et j'essaie de montrer comment est-ce que la simulation politique éclaire aussi sur la politique elle-même.
C'est bien, il est notre avocat. Il faudra dire ça à la direction de Radio France, hein, Senpai, pour qu'on continue ensemble. Et enfin, alors, quelqu'un de très particulier, Jules Dequisse. Il est grand, il est très beau. Hein, beaucoup de gens. Alors, non, mais, alors, je te dis un truc, je reçois des SMS. Qui est la personne qui est à ta droite? C'est incroyable.
Bah, je dis pas trop bêtise.
Voilà. Ah oui, c'est ça. Incroyable. Oui, la chance pour lui, pas pour moi. Hein. Je reçois des SMS. Bon. Bref, Jules Dequisse, qui. Oui. Tu travailles à France Info.
Oui.
Et tu as un rôle très particulier ici. Dis-nous.
Exactement. Moi, j'ai mon émission sur France Info, 10h-14h tous les week-ends. Voilà, très sérieux. Et je suis là pour être un peu sérieux aussi parmi vous, même si je ne doute pas que c'est votre cas aussi. Il y a deux choses. D'une part, je t'aide à faire avancer la narration. Quand vous allez faire des choix stratégiques, jeu de rôle, lancer de dés, en fonction du score, ça se passera bien ou pas bien. Et c'est moi qui donnerai plus de détails sur la forme que prend votre aventure. Et deuxième rôle, et le plus important, c'est que vous allez, comme dans toute campagne électorale, débattre autour de sujets d'actualité, comme c'est le cas dans la vraie campagne. Et à ce moment-là, on va lancer des éléments de reportage, des éléments d'interview, des petits papiers explicatifs de la rédaction de France Info. Et là, on sera dans le vrai monde. On va sortir un peu du monde fictif et vous allez réagir à des vrais thèmes de la campagne. C'est un moyen aussi d'informer ceux qui nous regardent et d'être vraiment dans ce moment d'information. Il y aura cette petite balise son qui partira. Voilà, c'est ce qui va montrer un peu qu'on sort du monde fictif pour être un peu dans le monde réel. Et ensuite, vous pourrez débattre de ces trois thèmes d'actualité que nous avons choisis avec Fibre pour ce soir.
Oui, je rebondis sur ça, puisque en fait, le but de cette émission, comme on dit notre proverbe, nous instruisons, mais nous n'éduquons pas. C'est-à-dire qu'on est là pour vous transmettre des choses, vous prenez ce que vous voulez, mais on ne va même pas vous dire voter. Voilà, on va vous dire... Que diriez-vous de vous intéresser à ceci ? Voilà,
c'est un programme neutre et apolitique, bien sûr.
Alors, je ne sais pas. En tout cas, il faut bien survivre parmi les conditions d'expression de Twitch. Notre équipe, bon, on l'a présenté. Il y a les petits gars de Gozulting, donc Victor Jolivet à la Réal, mais il n'y a pas que. Hein. Il y a Adrien qui s'occupe du son, comme d'habitude. C'est vraiment la team Game of Thrones. Il y a Fredo qui est dans les coulisses pour nous taper sur les doigts. Il y a aussi Xavier qui est là pour taper, par contre, sur son clavier pour envoyer des petits tweets et faire des sondages. Et il y a également toute l'équipe. Ils sont très nombreux de Radio France que je salue, dont je n'ai pas les noms. On va dire qu'ils s'appellent Nathan, Clémentine, Laurent et Bernard. Et je prendrai leur vrai nom tout à l'heure et je vous, à la fin de l'émission, je les remercierai. Je suis désolé. Vous pouvez envoyer le générique. Alors, 3. Nous sommes aux élections présidentielles de 2022 et 4 candidats, en plus de Emmanuel Macron, se sont distingués dans les sondages. On va les découvrir un à un. Le premier à ma gauche, c'est
Didier Vert.
Didier Vert, tu es un candidat qui est issu de quel parti ?
Je suis issu d'un parti dont moi-même j'ai oublié le nom tellement il est long.
Donc appelons-le le Parti écologiste.
Tout à fait.
Et quel est le slogan du Parti écologiste ?
L'avenir, c'est déjà trop tard.
L'avenir, c'est déjà trop tard. À Aurore, je ne t'appellerai plus Aurore désormais.
D'accord.
Quel est ton nom de candidate ?
Véronique Solette.
Véronique Solette, quel est le nom de ton parti ?
Allons-y.
Allons-y, je crois que c'est le slogan, j'ai mal noté.
Non, et c'est donc, le parti, parce qu'il faut commencer, il faut avancer.
Et le slogan ?
Ensemble, libérons les énergies.
Ensemble, libérons les énergies, allons-y. Donc, on a un bloc écolo de gauche, un peu, bien écolo.
Très de gauche, je pense.
Oui, ton slogan, c'était l'avenir ?
Mon slogan, l'avenir, c'est déjà trop tard.
Voilà. Ensemble, allons-y. En face, on a...
Non, ensemble, excusez-moi. Ouais. Ensemble, libérons les énergies. Je crois que c'est mon...
Libérons les énergies. Du parti, allons-y. Excusez-moi,
allons-y.
On va y arriver.
Sinon, on va pour attaquer le slogan direct, ça va être très bien.
En face...
Charles de Spie.
Charles de Spie.
Tout à fait.
Du parti...
Du Rassemblement National pour une Royauté Numérique, le RNRN.
Le RNRN.
Tout à fait.
On m'a fait remarquer que RN au carré, c'était un peu plus, mais bon, peu importe.
Oui, je sais, mais je voulais rester grand public pour que plus d'électeurs votent pour moi.
Voilà. Très bien.
Et pas tomber sur...
Et enfin, à ta gauche, on a...
Je suis Marcel Courret.
Marcel Courret du parti ?
La chose commune.
Ah, j'ai oublié de demander le... Excuse-moi, ton slogan.
Ah, mon slogan ? Notre programme, le programme.
Notre programme, le programme. Et Marcel Courret ?
Oui, de la chose commune, avec un slogan simple, Monsieur Fibre Tigre.
C'est parti.
Partageons enfin.
Partageons enfin tout un programme. On va parler dans deux minutes, vous allez faire votre déclaration de candidature. Je vais commencer par Véronique, donc réfléchis à comment tu vas présenter ta candidature. Avant cela, je vais vous expliquer pour les gens qui regardent l'émission pour la première fois, et puis à vous aussi, comment fonctionnent les voix. Donc vous avez des petites billes devant vous qui représentent chacune 500 000 Français qui vous ont déjà accordé votre confiance et leur voix. En bleu, ce sont les super riches. Les super riches, ils veulent moins d'impôts. Mmh. En marron, ce sont les précaires. Les précaires, ils veulent des meilleures conditions de vie. En transparent, c'est les classes moyennes. Les classes moyennes, ils sont de la classe moyenne. Ils ont pas, c'est les gens qui sont un peu sans étiquette, sans envie précise, mais quand vous dites des choses vraiment absurdes ou choquantes, eh ben, ils vous détestent ou au contraire, ils vous aiment bien. Ça, c'est les étudiants. Les étudiants, ils sont pleins de valeurs, mais également, ils veulent des meilleures conditions de vie et ils croient en l'avenir. Enfin, ils espèrent en tout cas. On a les entrepreneurs qui n'aiment pas les charges sociales, qui aiment bien quand ça fonctionne. C'est très fluide avec l'international. On a les retraités, pour qui le thème de la sécurité et un peu de l'immigration est important. Et enfin, on a les bobos, comme disait l'autre, l'important c'est les valeurs, l'écologie, tout ça, les bobos ils aiment bien. Donc en fait, vous allez gagner, quand vous gagnerez des voix et que vous deviendrez de plus en plus plébiscité par les Français, vous ne gagnerez pas n'importe quelle voix, vous gagnerez certaines voix et vous allez en perdre certaines. Et quand vous n'avez plus par exemple de bobos, lâchez-vous, vous n'avez plus rien à en perdre, vous voyez ce que je veux dire.
On ne peut pas regagner.
Voilà. D'ores et déjà, je vais demander, vous avez une voix de chaque, je vais demander d'en choisir deux et de les placer en militants. Quand ils sont militants, vous ne pouvez pas les perdre.
D'accord.
Ah ouais.
Donc par exemple, si vous avez peur de perdre des retraités, vous le mettez en militant.
Ah ouais.
Alors petite méta du jeu.
Okay. Personne peut nous les prendre, on les garde.
Alors si vous faites une bêtise par rapport à votre propre parti, vous pouvez perdre des militants, mais vous ne perdez pas les voix. Et à ce moment-là, après, vous pouvez perdre les voix.
Je pose la question parce qu'il y a quand même le vétéran du jeu.
Oui.
Donc évidemment Clément.
Il a perdu trois fois.
Oui.
Ah ouais.
Oui, mais parce qu'il sait qu'il revient à chaque fois.
Alors deux fois seulement, deux fois. Tout de même.
Mais au pilote aussi.
Monsieur Fibre Tigre.
C'est la différence entre en CDI en freelance, il sait que de toute façon son salaire est assuré. Mais est-ce qu'il y a une stratégie, une méta, des voix à placer ou pas?
Bah oui, parce que par exemple, si tu vas prononcer des discours qui vont faire peur aux retraités, il vaut mieux que tu mettes des militants retraités parce qu'eux, ils ne vont pas jamais partir.
Ah,
en fait, tout dépend si tu joues stratégique ou roleplay. Si tu joues stratégique, tu mets en militant des gens que tu sais que tu vas perdre. Si tu joues roleplay, tu mets en militant des gens de ton propre parti.
Mais ça n'a aucun sens. Les riches sont avec moi.
Les super riches sont avec toi. Et un deuxième
Les entrepreneurs, les commerçants, parce qu'ils vont prendre un peu cher.
Très bien. Et toi, Véronique?
Véronique, elle va prendre la classe moyenne et les étudiants.
Très bien, c'est beau ça. Charles?
Je vais prendre les bobos, comme ça je vais pouvoir leur cracher dessus pendant toute la soirée. Et peut-être des étudiants aussi, parce qu'ils vont prendre un peu cher.
Et enfin, Marcel?
Moi, j'ai un vieux communiste qui est avec moi, il est dans le parti depuis longtemps, et puis un commerçant, un petit commerçant de proximité.
Très bien.
La même strat.
Nous allons déterminer votre passé. Et je vais commencer avec Charles. Charles, dis-moi un chiffre qui est soit 4, soit 6.
6.
6. Alors, je me tourne vers Jules de Kiss. Quel est le passé de Charles de Spie?
Qui est Charles de Spie? Charles de Spie est milliardaire. Il a accumulé une fortune colossale grâce à la multinationale qu'il dirige, un consortium d'entreprises investies sur de nombreux secteurs d'activité. Sa promesse de succès pour la France et sa réussite personnelle séduisent les électeurs, quand d'autres au contraire font part de leur méfiance. Tous les moyens sont-ils bons pour parvenir à la réussite? Est-ce que Charles de Spie a vraiment le sens du collectif? Lui pense en tout cas qu'il est temps de changer le système, de changer son pays et de lui rendre tout ce qu'il lui a apporté. Et si la France était finalement une entreprise comme une autre? Voilà une vision qu'il assume pleinement.
Charles de Spie, milliardaire, qui a un fort pouvoir dans les médias notamment.
Très bien.
Tu as la possibilité de prendre une voix qui n'est pas militant à l'un de tes adversaires et à la donner à un autre de tes adversaires. Je te laisse le faire immédiatement.
Prendre une voix à quelqu'un et apprendre à quelqu'un d'autre.
Exactement.
Alors attends, parce qu'on a deux candidats de gauche, il faut que je les affaiblisse l'un par rapport à l'autre. Je vais prendre un bobo à Marcel. Je peux pas me le donner à moi.
Non, tu dois le donner à quelqu'un d'autre.
Je vais prendre un bobo à Marcel que je vais donner à Véronique.
Oh, c'est terrible.
Voilà. Ensuite, Marcel, dis-moi un chiffre qui est 1 ou 5.
Pardon?
On n'oublie pas ce geste, Véronique.
On n'oublie pas.
1. Jules, quel est le passé de Marcel?
Marcel Courret est une figure médiatique qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend depuis des dizaines d'années. Il a toujours exposé ses opinions, y compris dans des livres à succès. Intellectuel pour les uns, clown du cirque médiatique pour les autres, ses opinions sont clivantes. Charles Courret suscite la polémique. Il dénonce une faillite politique générale. Il veut se battre pour des valeurs qu'on a selon lui abandonnées. Mais quelle expérience a-t-il? Marcel Courret est-il capable de présider la France plus que des discussions de salon? Les électeurs trancheront.
Voilà, éditorialiste, rien ne se passe de particulier pour toi. Malheureusement, Didier, tu n'as plus le choix parce qu'ils ont pris des choix qui t'appartenaient.
Ouais.
Donc Didier, il a le numéro 7. Qui est Didier, Jules?
Alors Didier Vert est bien connu des Françaises et des Français. Didier Vert, vous êtes un militant infatigable, toujours sur le terrain, devant les caméras, pour porter les causes que vous défendez. Didier Vert a le verbe haut, il a le sens du coup d'éclat. Personne ne doute de la sincérité de ses engagements. Il arrive aussi à faire bouger les choses en mobilisant l'opinion publique, en agissant dans le milieu associatif. Didier Vert se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Lui qui a toujours tiré à boulet rouge sur la classe politique. Didier Vert est un candidat sympathique, le plus populaire hein, quand on sonde les Français, mais beaucoup doutent de sa capacité à naviguer dans le monde politique, à diriger un État et à construire des compromis.
Venu de ce monde de l'association, tu es moins populaire que les autres, tu vas me donner une de tes voix.
Je vais te donner une de tes voix.
Oui, là, celle que tu veux.
Celle que je veux, des retraites.
Mais comme tu es sympathique et que tu viens d'arriver, tu peux prendre à n'importe qui autour de la table une voix qui n'est pas un militant.
Est-ce que j'ai le choix de ne pas, je peux ne pas le faire ?
Mais tu as envie de gagner ou pas ?
Laisse-le perdre.
C'est pas grave.
Non, tu dois prendre une voix.
Je dois prendre une voix.
Parce que en fait, ces gens-là,
non, j'explique. Hier, toi, hein.
Même si tu veux pas que les gens votent pour toi, eh ben ils votent pour toi. C'est ça le truc.
Ah ouais ?
C'est ça, ça. C'est la damnation. Parfois, les gens sont hauts dans les sondages et ils le veulent pas.
Puis-je reprendre le pion que j'ai perdu ?
À quelqu'un, un retraité, soit
bien,
à Véronique,
soit à Charles. Je vais prendre à Charles de Spi, un petit retraité.
Mon cœur d'électeur.
Très bien. Et enfin, Véronique, un chiffre qui est 2, 3 ou 4.
3.
Qui est Véronique, cher Jules ?
Véronique Solette est maire de la deuxième ville de France, Marseille. Elle tient la mairie depuis une vingtaine d'années maintenant et se vante d'avoir su dépasser les chicaïas locales pour faire grandir la ville. Elle prône la même stratégie pour la France, dépasser les clivages politiques au nom du pragmatisme. Sa voix compte dans toute la région PACA, c'est un vivier d'électeurs. Sa candidature s'est imposée comme naturelle au sein de son parti. Mais l'Élysée n'est pas un hôtel de ville. Saura-t-elle conquérir la France ? Saura-t-elle démontrer qu'elle a la stature d'un chef d'État ? C'est la tâche qui attend Véronique Solette dans cette campagne qui commence.
Véronique, par le fait d'être dans quand même la deuxième ville de France, tu gagnes déjà 500 000 classes moyennes, merci Ken de le passer. Tout à fait, tu viens de gagner. En plus, malheureusement, comme tu viens de Marseille et il s'est passé bien des choses, tu as une casserole politique qui traîne derrière toi. Tu vas me dire un chiffre entre 1 et 13.
11.
Dites-moi, Jules, le passé de Véronique a quand même un petit problème. Dites-moi, en plus, je vois que c'est une casserole très marseillaise, vous allez voir.
Véronique Solette a confié s'être rétablie du Covid grâce à 2 verres de pastis et un peu d'hydroxychloroquine.
Alors, ça, c'est quelque chose que tu traînes, malheureusement. Et à chaque fois qu'il y aura un débat, même si tu le gagnes ou si tu le perds, si un de tes adversaires rappelle cette casserole, tu auras une voix en moins. Chaque fois. Mais par contre, tu pourras t'en débarrasser, rassure-toi. Mais pour l'instant, ça démarre comme ça. Et sachez que toutes les casseroles dont on parlera pendant le jeu...
Et les autres, ils n'ont pas de casserole.
Et non, parce qu'il vient d'une association. Lui, c'est un milliardaire, pas encore. Mais en tout cas, sachez que toutes les casseroles que nous avons sont des casseroles de personnes...
De
la vraie vie. Exactement.
Prononcées par des femmes ou des hommes politiques.
Exactement. Voilà. Je me souviens qui a dit ça. En tout cas, merci pour ce début. Et d'ailleurs, je me tourne vers Véronique Mélas de Marseille, qui aime bien le pastis. Qui va faire...
Qui est ouverte.
Qui est ouverte. Enfin, après avoir mûrement réfléchi et estimé tes chances, peaufiné tes alliances et ton programme, réuni les 500 signatures d'élus, tu es prête à annoncer ta candidature à la présidence de la République. Mais comment vas-tu le faire ?
Je vais faire un clip de campagne.
Un clip de campagne vidéo ?
Vidéo.
Diffusé à la télé ?
Diffusé sur les réseaux sociaux, etc. Et puis ensuite, je vais dans un open space. un truc du type « Oui, travaillons ensemble ». Et je m'adresse à toutes les parties prenantes.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce clip ?
Non, dans ce clip, je crois qu'on me voit au quotidien, justement, dans ma belle ville de Marseille, avec les entrepreneurs, ceux qui se confrontent à la réalité, ceux qui créent la croissance et la richesse de notre pays, aux hommes et aux femmes de tous les jours. Voilà, je suis avec eux et avec elles.
Tu as 30 secondes pour faire le discours qu'il y a dans ton clip de campagne. Chers compatriotes, et là tu dis, je suis maire, et je suis candidate, et mon projet c'est ça. Voilà.
Française, chères parties prenantes, chers amis de la tech. Oui, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter ma candidature à la présidence française. Pourquoi ? Parce que je vois un monde en pleine mutation, un monde plein de défis, le climat, les big tech, la paix. Alors certains n'ont pas douté probablement, mais mes adversaires politiques vont agiter des peurs, vont tenter de vous faire peur. Moi, ces défis, je les vois comme des challenges à surmonter. Je sais que les Français, Françaises. Ensemble, nous parviendrons à surmonter ces challenges. Alors, au lieu de tous ces candidats ouin-ouin qui ne nous font pas du bien, moi, je vous propose la France de la win, la France de la gagne. Je vous propose France win. Alors oui, ensemble, nous allons créer un écosystème résilient, puisqu'avec l'évolution contextuelle, toutes les caractéristiques opportunes et substantielles devront être envisagées. Ce pays est plein de belles énergies. Ces énergies, j'ai pu les voir quotidiennement tous les jours.
Alors, c'est 30 secondes normalement.
C'est vrai ?
Oui, on a un peu dépassé.
J'ai trois trucs bien.
Alors, gardez-les de côté. Ah, gardez-les de côté parce que tu auras peut-être l'occasion de les placer. Mais c'est juste 30 secondes.
Est-ce que je peux conclure sur mes punchlines
Petite conclusion.
Parce que l'avenir est déjà demain, ce 10 avril, je compte sur vous, je compte sur nous, sur vous, pour nous.
Merci.
Je crois que au-delà
des ouin-ouin, la win, c'était excellent. Merci beaucoup. En face de toi, Charles. Oui. Alors, Charles, comment va se faire cette déclaration de la candidature ?
Une vidéo sur Telegram.
Avant que tu continues, je tiens à vous dire que, en ce moment, les viewers, enfin, dans quelques minutes, vont pouvoir voter pour élire qui aura fait la meilleure déclaration de candidature et qui gagnera quelques voix supplémentaires dès le début de la campagne. Vas-y, alors redis-moi, ta candidature, tu l'as fait ?
Alors, c'est une vidéo sur Telegram, en live.
Une vidéo sur Telegram ?
Tout à fait, en live, où je me balade le long d'une plage vendéenne, des terres riches en histoire, évidemment, et des terres qui me tiennent à cœur. Je m'adresse aux Français et je m'adresse surtout aux sujets français, et non pas aux citoyens et aux citoyennes.
Nous t'écoutons.
Vous me connaissez, vous connaissez bien Charles Despie, l'entrepreneur, mais j'ai aujourd'hui le challenge d'une vie après avoir réussi dans tout ce que j'ai entrepris. J'ai envie de redonner à ce pays qui m'a tout donné et j'ai envie surtout de faire appel à votre intelligence, à votre ouverture d'esprit et à votre sens de la disruption parce qu'on ne va pas se mentir, vous le savez, et il faut vous dire les choses en face et moi je vous dis les choses en face, les élections sont une illusion. Voilà. Les élections présidentielles sont, comme le disait un célèbre sociologue du camp, si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France n'en voulaient pas. Vous savez très bien de quoi je veux parler. La démocratie, c'est un rêve, c'est une utopie irréalisable, un peu comme le communisme, par exemple, ou le wokisme aussi. Et nos ancêtres l'avaient bien compris. Il y avait un système qui s'appelait le royalisme. Un système qui était finalement plus crédible et pragmatique, hein, puisque le royalisme supprime la déception. Vous ne choisissez pas vraiment votre dirigeant, votre dirigeante. Mais au moins, on vous le dit depuis le début. Voilà, hein. On ne peut pas contenter 60 millions de personnes et encore moins 40 millions de personnes encore plus capricieuses. Donc, je vous le dis, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Et je vous expliquerai aussi pourquoi eh bien, le règne que je vous propose est le règne d'un roi. Un règne par ordinateur interposé.
Merci beaucoup, Charles. Je me tourne vers Marcel. Marcel, quelle déclaration de candidat tu fais ?
La seule possible, la seule possible, je monte sur la scène de la grande scène de la fête de l'humanité, la belle fête de l'UMA, et je m'adresse à tous les militants et les militantes rassemblés.
D'accord, et qu'est-ce que tu dis ?
Eh bien, je leur dis, chers amis, on s'était manqué ! On s'était manqué ! Nous nous retrouvons, alors bien sûr, l'heure est à la fête, les drapeaux volent, les hurrahs se poussent et se crient, et pourtant, dans quel monde vit-on ? Dans quel monde vit-on ? Un monde où 5 personnes possèdent davantage que la moitié de toutes les Françaises et tous les Français, 27 millions d'autres. Un monde où les plus riches polluent plus que de raison et sont en train de faire exploser la planète pour le seul plaisir de leurs bénéfices personnels. Alors, il faut être conséquent. Certains s'en satisfont, les profiteurs de crise, les tenants de la liberté à tout va et trouvent ça formidable. D'autres sont inconséquents, vont vous dire qu'ils sont écologistes, mais qu'au fond, il ne faut rien changer et simplement faire couler un peu moins d'eau dans sa douche. Eh bien moi, nous sommes conséquents. Nous proposons la seule conséquence possible. Sortir du capitalisme, tout mettre en commun, le bien commun, la chose commune. Partageons enfin, voilà ce qu'ensemble nous allons faire dans cette élection présidentielle.
Merci beaucoup, j'adore quand ils sont chauds comme ça.
Bah, arrête d'être pour lui, toi.
Mais attends, parce que je vais être encore mieux pour toi. Moi, je ne vote pas en plus, ça tombe bien. Cher Didier, comment Bonjour. Fais-tu ta déclaration ?
Je fais ma déclaration sur un immense peloton qui parcourt
Lyon à Paris avec 8 de mes militants écologistes à vélo, exactement. Et nous avons choisi de faire cette longue marche, ce long ride à vélo en portant notre message.
Attends, je comprends, tu es en train de faire du vélo et tu parles?
Exactement.
T'es pas essoufflé?
Attends, je te dis comment je prépare. Là, je vais préparer mon discours.
D'accord, excuse-moi, tu fais ça et c'est filmé?
Ah, c'est filmé, bien sûr.
Et c'est retransmis comment?
Et c'est retransmis par la télévision. Hein. N'as-tu jamais regardé le Tour de France?
D'accord, très bien. Attends, façon Tour de France, je t'écoute.
Mes très chers compatriotes, vous me connaissez, moi, Didier Vert. J'ai choisi de porter le message de l'écologie autour de toute la France. Si je peux faire des efforts, vous le pouvez, vous aussi. Je vous montrerai la voie vers une France plus écolo, une France plus responsable et une France plus forte de ses idées et de ses possibilités. Je vous attends aux urnes et à Paris dans 5 jours, d'ici la fin de ce petit ride.
Okay, il fatigue un peu, mais d'accord, très bien.
Alors,
comme vous avez pu le voir sur un petit synthé, vous allez sur Twitter pour voter. Qui vous a convaincu en mettant le petit hashtag qui va bien? On a fait un tweet pour que vous votiez pour le candidat qui vous a convaincu. En attendant ces résultats du vote, je vais demander, on va commencer par Charles. Charles, en fait, tout le monde peut parler en même temps. Vous allez recruter votre directeur ou directrice de campagne. On va prendre des gens aimables du chat. Donc, je vous donne des noms. Ils ont des noms un peu étranges parce que c'est des pseudos. Il y a Skynet666.
Oh, bah, il est pour moi. C'est comme si on avait Instant Match sur Tinder.
Voilà. Grabuchevi, Orico Corico, Seb Coop, Zonzon.
Zonzon, c'est pour.
Zonzon, Vivien, Cosmic C, Nopasaran, peut-être, Tchernobog, Krovac, Baltring, Ravaillac. Elle est dite, hein, présentée, toujours rien. Ok. Chouka, Monsoyeux, Orechan, Portalis. Cochedi, Lego Blue, Portalis, c'est parti. En plus, il a sebé, donc merci à toi, Portalis. Jean Basquier-Jourdain, Marcel Patulacci,
Elis,
Tank de la Vie, Jar Jar Binks, Escobarix.
Je vais travailler avec Ravaillac.
Ravaillac.
Un tueur de roi, un régicide.
Néordle, Au Minéral, Jeff Bucket, Larbinous.
Au Minéral, c'est bien.
Au Minéral. Allez, Au Minéral. Donc, alors, je vais noter quand même parce que comme ça, je vous suis. Donc, Didier Vert, c'est Au Minéral.
Ça va bien représenter ton programme, je pense.
Ouais.
Un truc bien.
Charles Despy, c'est Skynet.
Skynet 666.
On va l'appeler Skynet, d'accord. Marcel, c'est qui?
C'est Ravaillac.
Ravaillac. Ouais, et Portalis. Ouais, ça fait très nouvelle Renault. cher Marcel Courret, tu es avec Ravaillac.
Absolument.
Et Ravaillac te dit, c'est le début de la campagne présidentielle. Il va falloir faire quelque chose. Donc la chose la plus facile, la chose la plus efficace et plus sûre pour gagner des voix, c'est de faire un meeting.
Ouais.
On va en province. On dépense de l'argent, même si c'est la chose commune, et on parle aux Français. Maintenant, avant de faire ce meeting, tu peux décider de te reposer ou de lever des fonds. Parce que plus, si tu es bien reposé ou si tu as levé des fonds, ton meeting, il a plus de chances d'être incroyable. Parce qu'il y a toujours un risque. Tu peux éventuellement, tu sais, il y a Véronique qui a déjà une casserole, tu peux essayer de trouver une petite casserole sur Charles ou sur Didier. Ça peut être un choix. Qu'est-ce que tu voudrais faire?
Alors, c'est seulement ça les possibilités?
Tu peux passer à la télé.
Ah.
Et tu as un message à passer, une déclaration choc sur un des thèmes du jour. Tu veux faire ça?
Bien sûr.
Alors, tu veux passer à quelle télé?
Je vais passer au journal télé de 20h du soir de France 2, le service public.
Alors, avant qu'on avance, je crois que les résultats viennent de tomber. Qui a fait la meilleure déclaration de candidature? Les votes sont assez... Alors, on les voit derrière moi.
Oh, l'effort.
Le Telegram n'a pas très bien marché. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il a fait, derrière moi. C'est Didier Vert. Hein, 40% ont apprécié cette déclaration très originale. Et tu gagnes, pour dire, un classe moyenne, un étudiant qui fait du... et un précaire qui ont apprécié ton côté vélo et pas voiture. Voilà. Donc, quelle chaîne tu veux passer?
Sur France 2. Journal de 20h de France 2.
Journal de 20h de France 2. Alors, absolument. Tu peux t'exprimer sur l'immigration et tout ce qui est associé.
Non.
Droit d'asile, identité, Brexit. Les services publics, hôpital, école, police, justice, violence policière, la sécurité, l'écologie, la retraite et la sécurité sociale, ou la diplomatie extérieure et l'armée. Sujet très actuel.
Je vais parler de sécurité sociale au sens le plus large du terme.
Très bien. Donc, tu es à France, tu es à France 2, tu es reçu au journal de 20h, tu présentes un petit peu ton programme, et à la fin de l'interview, tu as le droit de t'exprimer sur quelque chose, on t'écoute. 30 secondes.
Écoutez, j'aimerais vous faire prendre conscience d'un paradoxe. Un paradoxe que nous connaissons tous et toutes. Si votre époux ou votre épouse fait le choix de garder ses enfants chez lui, il devient homme ou femme au foyer, eh bien on va le dire que c'est un inactif. Et il sera stigmatisé par la société. Si votre époux ou votre épouse, au contraire, est un ou une aide à domicile et qu'il garde les enfants ou qu'elle garde les enfants de quelqu'un d'autre, eh bien là, on va dire qu'il travaille. Si vous tondez la pelouse dans votre jardin, c'est un loisir. Si vous tondez la pelouse dans le Stade de France, vous travaillez. J'aimerais remettre en cause la valeur même du travail et proposer la seule proposition qui vaille, sortir du système de production capitaliste qui ne reconnaît comme productif que ceux qui ont un salaire. Donc, ma proposition est simple, salaire universel. Nous reconnaissons les individus comme naturellement productifs, 1500 euros pour chacun, pour pouvoir faire non pas ce que la société impose, mais ce que chacun et chacune désire pour se réaliser dans la vie.
Salaire de 1500 euros pour tout le monde, c'est ça ?
À vie. Et puis après, on module évidemment si on veut faire un travail plus adapté, plus particulier, mais salaire de 1500 euros, et ensuite le reste est géré par des caisses collectives. On expliquera ça bientôt.
Je retiens la phrase choc, salaire de 1500 Absolument. Euros pour tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner ? La régie, envoyez-nous un petit dé qui va apparaître derrière moi. Alors moi, j'ai le chat devant les yeux, ils sont là. Oui, oui, je vote pour lui. Hein. Et en tout cas, le chat est content. Oh, catastrophe. Jules de Kiss, qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-nous.
Marcel Courret, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Il se parle à lui-même. Il s'écoute plus qu'il n'écoute les Français. La dernière déclaration choc du candidat a été particulièrement mal reçue par les Français, y compris ceux qui se disent prêts à voter pour lui. Il perd en crédibilité dès qu'il tente quelque chose. Se lamente-t-on même au sein de son parti ?
Tu dois nous donner une voix.
Laquelle ?
Celle que tu veux, qui n'est pas militant, parce que tu as déçu.
Ah, je vais te donner un...
Non,
je peux pas faire ça. Je vais te donner un... Non, je vais te donner un retraité. Les retraités, ils n'ont pas trop compris le salaire à vie.
On ne comprend pas. Didier, ton responsable de campagne qui s'appelle Au Minéral.
Au Minéral, tout à fait.
Au Minéral, il te dit, t'as vu l'autre Marcel. Est-ce que tu veux faire comme lui une déclaration à la télé ou est-ce que ça te dirait de faire un meeting ?
Un meeting ? Ah non.
On va dans une ville de province.
Non, je choisirais plus la radio, moi.
La radio ? Ou alors, ouais. Si tu veux, on taffe un peu et on trouve un petit dossier sur Charles.
Un petit dos ?
Ouais.
Un petit dos, quoi. C'est un coup de lancer de dés pour trouver un petit dos ?
Oui, c'est un coup de lancer de dés.
C'est un coup de lancer de dés pour trouver un petit dos.
Ah, ça,
on va peut-être se trouver un petit dos.
Alors, Didier...
Allez, les grandes valeurs sur le vélo et derrière.
Sur Charles, évidemment.
Alors, Didier et son équipe, des détectives, cherchent des dossiers compromettants sur ses adversaires. On va lancer un dé, effectivement. Que se passe-t-il ? Il y a une partie, effectivement, la politique, c'est aussi de la chance. C'est un 6. Jules de Kiss, raconte-nous.
Mediapart et Le Monde révèlent dans une enquête conjointe une information exclusive qui risque de rebattre les cartes de cette campagne présidentielle. Des témoignages anonymes qui mettent le candidat en délicatesse. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire.
Alors, qu'est-ce que tu as eu comme dossier qui t'est tombé dessus ? Tu vas nous dire un chiffre de 1 à 13, c'est ça ?
Oui.
Qui n'est pas 11 ?
13.
13. 13, Jules de Kiss. Quel est ce dossier levé par Mediapart sur Charles de Spie ?
On apprend que Charles de Spie a comparé la procréation médicalement assistée au régime nazi.
Oh !
J'ouvre les guillemets. C'est un engrenage et cet engrenage mènera à la marchandisation des gamètes. Tout ceci a un nom. C'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime. C'est le nazisme.
Alors, lourd dossier. Et sache, Didier, que quand vous serez en débat tous ensemble, si tu mentionnes quand il a parlé d'eugénisme sur la PMA, tu pourras, à la fin du débat, même si tu as perdu le débat, tu pourras lui prendre une voix.
Ah ouais.
À chaque débat.
Oh. Voilà.
Mais Charles pourra se débarrasser de cette voix à un moment.
Ah, je vais être relou si je me resserre de ça à chaque fois, quoi.
Bah, il y a des gens qui gagnent en faisant que ça. Voilà. Donc ça peut être.
Je sais.
Et enfin, Véronique. Alors donc, ton Portalis, ta Portalis, on va dire directrice de campagne, elle te dit, écoute, Véronique, il y a plusieurs choses, mais t'as vu l'affaire Mediapart sur Charles. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire, si on va à la télé et on parle de ces deux pastis. Et on
parle de ma casserole à moi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et on fait en sorte qu'elle ne soit plus là et que tout se passe bien. Et après, on peut tranquillement faire des meetings, tout ça. Ou alors, si tu te sens de faire un meeting, tant pis, on garde la casserole. La campagne est longue. Voilà. Donc, à toi de choisir.
Moi, je vais à la télé pour parler du pastis.
Donc, tu veux t'en débarrasser, c'est ça?
Ouais.
Donc, tu vas à quelle chaîne?
Je vais sur TF1.
Tu vas sur TF1, tu reçois Gilles Boulot, TF1, vous parlez du programme, tout ça. Ouais. Et à la fin, tu l'as prévenu, et il se tourne vers toi et dit, et donc Véronique, en fait, vous voulez revenir sur quelque chose, qui a un petit caillou dans votre chaussure, dans votre carrière, et vous voulez vous exprimer sur ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dis par rapport à ça?
Oui, parce que j'ai jamais eu la possibilité de m'exprimer, et je pense que je le dois aux Français et aux Françaises. Alors, oui, effectivement, j'ai dit que j'avais bu deux pastis quand j'ai eu le Covid. Il faut juste rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore le vaccin. Alors, je suis évidemment triplement vaccinée, mais oui, bien sûr, dans un moment de creux, bah, qu'est-ce qu'on fait à Marseille? Bah oui, on prend deux petits pastis, et ça fait du bien. Alors, j'entends tout le bruit et le hasard qui est fait autour de ça. Franchement, si les candidats en politique et si les journalistes n'ont pas mieux à dire, vu tous les défis, les challenges qu'attend notre nation, moi ça me désespère un peu. Donc oui, parlons-en, moi, pas de problème, je suis triplement vaccinée et oui, des fois, quand j'ai un petit coup de mou, bah, je suis comme tout le monde, hein, je bois du pastis.
Merci beaucoup, c'est une belle prestation, donc on va lancer les dés, on va rajouter un. Alors plus le chiffre est fort, mieux c'est. C'est un 6. Oh. Jules de Kiss, qu'est-ce qui s'est passé hier soir sur TF1?
Eh bien, Twitter remplace parfois les plateaux télé et c'est bien sur la toile qu'un débat improvisé a lieu après ses déclarations à la télévision. Et il n'était pas question d'échange d'idées, mais bel et bien de cette affaire qui encombre la candidate à l'élection présidentielle. Eh bien, ceux qui l'accusent, ça colle pas du tout en fait.
C'est pas grave. En tout cas, ça s'est très très bien passé. Ah. Et non seulement...
Les internautes te soutiennent.
D'accord.
D'une part. Et d'autre part,
ils sortent
un dossier
sur un de tes adversaires,
sur tous ceux qui t'accusent.
Voilà.
Parce qu'ils trouvent que tu t'es très bien défendu, que ceux qui s'en prennent à toi ont été absolument injustes. Et ils ont cherché un peu partout sur Internet des autres dossiers, ils en ont trouvé.
Alors, tu n'as plus ta casserole. Mm-hmm. Et en plus, tu vas choisir un de tes adversaires. Ça peut être le pauvre Charles qui a déjà une casserole, mais ça peut être l'un de tes deux autres adversaires. Ce sera Didier.
Didier, il me semble.
Didier, tu vas nous dire un chiffre entre 1 et 13, qui n'est ni 11 ni 13.
Ni 11 ni 13.
Enfin, 1 et 10 plus 12. Voilà.
On va prendre 7.
7. Jules de Kiss, qu'est-ce que les internautes défenseurs de Véronique ont trouvé sur Didier?
Eh bien, on apprend que Didier Vert a eu une relation avec une de ses assistantes et cela a mal tourné. Cela a fait les choux gras de la presse people à l'époque, puisque lors d'une soirée arrosée et d'une dispute, Didier Vert a expulsé quasiment nu de son bureau cette assistante.
Alors, ça l'histoire.
La nudité, c'est écolo.
Oui, très bien. Sachez que je veux parler à cet adversaire. Si vous parlez de cette histoire d'assistante douteuse, vous ne gagnerez pas une voix de lui, mais il en perdra une, systématiquement dans les débats.
Et on a tous le droit d'en parler.
Vous avez tous le droit d'en parler, il n'y a aucun problème. La différence, c'est que comme c'est lui qui a levé un lièvre sur Charles, oui. Si on parle de son affaire, ouais. C'est lui qui gagne, mais là, c'est un peu différent. Mais bon, en
D'accord.
tout cas, ça s'est fait comme ça. Et j'ai commencé par qui tout à l'heure? Je crois que j'ai commencé par Charles, non?
Par qui t'as commencé?
Non, il reste toi encore.
Ouais, ça aussi,
il reste toi. Et donc, Skynet te dit, dur l'affaire Mediapart. Est-ce que tu veux qu'on ait expliqué tout ça à la télé ou pas?
Mais bien sûr.
Ou alors, si tu veux, on fait un meeting, on récupère des voix. Parce qu'on peut gagner 3-4 voix, on s'en fout de ces histoires. Quoi.
Oui, j'ai pas besoin d'aller à la télé, effectivement. Je vais passer par des réseaux sociaux pour avoir un côté plus naturel et informel et pour revenir dessus, bien sûr.
Donc,
j'invite aussi Gérard Darmon avec moi pour parler de Mediapart.
Donc t'as Gérard Darmon, on est filmé ou pas? C'est sur
bien
TikTok?
Bien sûr, c'est une discussion avec Gérard.
C'est un live TikTok, c'est un live quoi?
Sur un space Twitter, un petit space Twitter.
Ah,
voilà. Juste à l'audio. En plus, la voix de Gérard Darmon est parfaite pour ça.
Donc, attends, Gérard
tout
Darmon.
Ce qui marche. Hein.
Très bien. Et donc, qu'est-ce que tu dis? 30 secondes.
On discute avec Gérard qui, justement, m'explique que lui aussi se plaint un peu des méthodes de ces journalistes qui passent des coups de fil, hein, mais qui se cachent un peu tel les Louis Plenel. Je n'ai pas à me cacher. Mediapart, effectivement, vous savez, ce sont des spécialistes pour lever des lièvres. Et ce qu'ils ont levé, c'est vrai, mais ils n'ont pas mis le contexte comme d'habitude, ce qui fait un vrai journalisme. Je parlais du problème de la PMA au Mexique. Je suis entrepreneur de multinationales. Nous avons eu aussi des cas sur certaines entreprises sur une forme de commercialisation du corps, une commercialisation des gènes, commercialisation des gamètes qui débordent au Mexique. Et je dénonçais ce genre de débordement, bien sûr.
Très bien, c'est pas mal, je te rajoute un, on va lancer un dé. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a convaincu ton Space Twitter? 5, Jules de Kiss, qu'est-ce qui s'est passé suite à ce Space Twitter? Nous, on avait prévu la télé, mais bon, peu importe.
Après ce Space Twitter, Charles de Spy a même fait l'objet d'un reportage fleuve, puisqu'il a été très remarqué. De nombreuses pages dans Paris Match, où il revient encore plus sur cette affaire, il expose ses arguments. C'était l'occasion pour lui de faire un point et de renouer avec les Français.
Voilà, et Charles de Spy gagne un super riche et un retraité.
Et je rachète Paris Match au passage.
Et tu perds ta casserole. Ça, c'est ton problème.
C'est pas un truc présidentiel de racheter Paris Match, non?
Peut-être que tu le possèdes déjà.
Okay.
Donc, en tout cas, c'est fait. Et nous, c'est déjà l'heure. Ah non, excusez-moi. C'est l'heure de vivre quelques petites aventures. On va commencer avec Didier Vert. Didier, dis-moi un chiffre entre 1 et 52.
Oh punaise, hein. j'ai un choix gigantesque.
En fait, non, il y a plein d'aventures qu'on a déjà jouées, mais je jouerai la plus proche.
D'accord, entre 1 et 52, je te donnerai 49.
49, ça va s'appeler le convoi. Le convoi. Ah non, on l'a déjà fait, excuse-moi. Ça va s'appeler, une référence un peu littéraire, peut-être tout le monde ne l'aura pas, « Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres, envoyez-moi vos cohortes qui aspirent à vivre libre. » Que se passe-t-il? Je te dis ça dans une seconde.
Même Clem l'a pas. Hein.
Non, ce petit poème.
Alors, pendant que tu cherches, est-ce qu'on peut dire, quand même, pour nos viewers, que l'âme a 5 écrans devant lui?
Bien entendu.
Je multigère mes nationales, en plus que la campagne, c'est évident, je n'ai pas de temps à perdre.
C'est une folie écologique.
Alors, il y a des aventures un petit peu globales et un petit peu. C'est une aventure qui va te concerner, mais un peu de contexte. Les forces russes ont déclaré une guerre à l'Ukraine. À l'époque où je l'écris, j'avais même dit pseudo-guerre à l'Ukraine parce qu'ils n'avaient pas encore envoyé et tiré une seule balle, mais voilà, là, maintenant, ça c'est devenu réel. Et tout en niant la réalité de la guerre. Et l'Occident, dans sa grande majorité, soutient l'Ukraine. Est-ce que vous, en tant que candidat, d'une façon générale, vous soutenez l'Ukraine?
Oui.
Oui. Bien
oui.
sûr.
Oui. Charles?
C'est complexe.
C'est complexe. Très bien. Donne-moi, t'as un bobo ou pas?
J'avais un bobo en militant.
Ah, il est militant, bah, il devient normal. Très bien.
Ça fait cher les deux mots quand même. Je comprends mieux, il faut jouer stratégique.
Tu as décidé.
J'ai voulu jouer RP.
Didier Vert, tu as ton eau minérale qui te dit il y a Jean-Jacques Bourdin qui veut t'interviewer demain. Est-ce que tu veux y aller ou pas? Énorme audience.
Énorme audience, let's go, on y va.
Tu es reçu par Jean-Jacques Bourdin, on parle de diverses choses, de votre programme. Et à la fin, il dit, mais Didier, vous président, les victimes de la guerre veulent s'enfuir d'Ukraine. Pour arriver où? En France?
Pour arriver en France, bien sûr.
Alors oui, comme disent des politiques comme vous. Et certains, d'ailleurs, j'ai l'impression, font un distinguo entre réfugiés de guerre afghans qui n'acceptent pas et réfugiés de guerre ukrainiens qui seraient, je cite, de qualité. Donc vous accueillez tout le monde de toutes les guerres ou les Ukrainiens d'abord?
Nous accueillons tout le monde de toutes les guerres, bien entendu. Tous ceux qui sont nécessiteux, qui sont dans le besoin, nous avons un besoin de répondre évidemment à leurs malheurs et à terribles événements dont ils font face.
Didier Vert, président, France est totalement terre d'accueil.
La France, évidemment, sera terre d'accueil. Il ne s'agit pas, bien entendu, de donner des villas à tout le monde, mais au moins que les gens puissent avoir au moins le respect dont ils méritent et qu'ils puissent être traités en tant qu'êtres humains.
Mais Didier,
égal.
Moi j'ai envie de vous dire, ces gens-là, vous allez les mettre où?
Ces gens-là, nous créerons des infrastructures.
Ah, vous allez construire des maisons comme ça du jour au lendemain, parce que les Ukrainiens, ils sont là, ils sont dans la rue.
Des maisons, des colocations. Non, nous construirons tout simplement des centres d'accueil pour pouvoir accueillir le maximum de réfugiés.
Mais s'ils sont là, ils sont là dans la rue, ils sont dans le studio.
Monsieur Jean-Jacques Bourdin, oui. Laissez-moi terminer. L'Ukraine n'est probablement pas aux portes de la France. Il faudra traverser plusieurs frontières avant d'arriver.
D'accord,
mais si jamais.
Vous jouez
si
sur les mots, monsieur Vert. 15 jours. Dans 15 jours, ils sont là. Vous n'allez pas construire une maison en 15 jours.
La France a. Pour vocation, nécessité d'accueillir les réfugiés et de leur porter secours.
Mais j'ai bien compris,
nous
mais vous les mettez où? Sous quel toit? Dans quelle maison, monsieur
nous
Vert?
Créerons,
dans votre maison.
Nous créerons
Arrêtez
des infrastructures.
Arrêtez de dire ça. Les maisons n'existent pas.
Mais bien sûr que si. On en a créé des tonnes en Pologne et en Roumanie pour pouvoir accueillir les réfugiés. Ça s'est fait quasiment instantanément. Lorsqu'on est préparé à ce genre de situation, monsieur, on répond à ce genre de situation.
Alors, tu en tout cas, tu n'as rien lâché. Et alors, le fait que tu accueilles toute la misère de la terre, comme diraient certains, ne plaît pas du tout aux retraités, tu vas m'en donner un. Mais par contre, les bobos t'adorent et tu gagnes un bobo. Voilà.
On les mettra chez les bobos.
Ce n'est pas terminé, il risque d'avoir des petites répercussions. On verra ça tout à l'heure. Véronique, dis-moi un chiffre entre 1 et 52.
51, ça me paraît évident.
51. Ouais.
Oh là là, oui, oui.
Vive la Corse libre.
Ah. Le regret
c'est
immédiat.
En face. Comment faire le 2 mars 2022, Yvan Colonna, militant pour l'autonomie corse, condamné pour l'assassinat d'un préfet et violenté en prison, menant à des manifestations aussi violentes que son agression d'ailleurs, sur l'île Corse. Le président Macron, en campagne présidentielle comme vous, déclare « étudier l'autonomie de l'île de Corse ». Stratagème électoraliste, point d'interrogation, volonté d'écouter le peuple corse ou de calmer les violences, point d'interrogation. En tout cas, Portaliste dit que la majorité des Corses se plaignent du gouvernement. Il songe à une sorte d'autonomie, effectivement. Depuis sa date d'hier, je crois, Yvan Colonna est décédé. En tout cas, Portaliste dit c'est le moment de réagir sur ce sujet. Ou d'attaquer Macron, ou de se positionner par rapport aux Corses. Mais là, il y a des Corses, et je les ai dans les mains, là. Il y a moyen de capter leur voix. Qu'est-ce que tu leur dis, Véronique ? Enfin, si tu veux t'adresser aux Corses, tu veux faire un communiqué, tu peux dire je m'abstiens, je reste en dehors de cette affaire.
Non, pas par contre, je m'exprime comment ?
Comme tu veux, tu me dis. Moi, je suis Portaliste. Oui, je suis Portaliste. Si tu veux, je t'organise un entretien à la télé. Véronique Solette qui veut parler de la situation corse, tout le monde te reçoit.
Oui, je crois que je vais faire ça, mais je crois que je vais faire ça sur France Inter, par exemple.
Alors, tu es reçu sur France Inter, ça va beaucoup plaire à notre maison mère. Et donc, tu es reçu par. Alors, qui pourrait le recevoir sur France Inter ?
Léa Salamé.
Nicolas Demorand. Alors, Véronique Solette, donc on parle un petit peu. Oui. Mais Véronique, nous, on nous a dit que vous vouliez vous exprimer sur l'affaire Corse. Dites-nous.
Oui, parce que c'est un sujet important, parce qu'il ne concerne pas uniquement les Corses, il concerne avant tout notre vision de la démocratie et notre vision aussi des territoires. Moi, aux côtés de la majorité présidentielle, quand j'étais aux côtés de la majorité présidentielle, j'ai toujours défendu l'autonomie des territoires, la décentralisation, la possibilité pour tout le monde de s'exprimer travers des innovations démocratiques fondées sur une délibération
participative. Vous êtes en train de nous dire que donc la Corse autonome, comme demain la Nouvelle-Calédonie autonome, pour vous, c'est une possibilité en tant que présidente.
C'est quelque chose qu'il faut écouter. Il faut écouter et étudier toutes les possibilités qui sont aujourd'hui sur la table et les évaluer avec responsabilité, oui.
D'accord. Alors, je comprends l'enveloppe de votre cadeau, mais effectivement, si j'ouvre le cadeau, je vois une Corse autonome.
Eh bien, si c'est envisagé, si c'est demandé par les Corses, je pense qu'il faut les écouter, il faut les entendre et créer probablement une grande conférence, un grand débat au niveau de la Corse. Créer ce moment de discussion intense dont nous avons tant besoin et qui n'a jamais été finalement proposé aux Corses. Un grand débat, comme nous l'avons fait autour des territoires français ces dernières années dans le cadre de la majorité présidentielle.
Merci Véronique. Est-ce que la régie peut m'envoyer lancer un petit dé ? Donc déjà, les Corses évidemment sont fous de joie que tu gagnes ton Corse, tu as 5000 Corses qui votent pour toi.
Et
c'est un 1, malheureusement. Les retraités sont dévastés d'apprendre que leur belle France qu'ils ont connue va changer. Tu me donnes un retraité. Voilà, c'est parti.
Je récupérerai plus tard. J'ai d'autres mesures.
Oh, elle est confiante.
Cher Charles, un chiffre entre 1 et 52.
42 pour le gag, évidemment.
42.
Oui.
Avec une blouse et du parkour. Alors, tu te trouves en France, en train de rencontrer des Français, parce que le physique, c'est aussi important, même si tu veux tout dématérialiser. Mmh. Et tu es dans loin de Clermont-Ferrand, où se trouve un collège qui a une particularité, le collège Charles Baudelaire, que je salue, qui a les plus mauvais résultats de France. Un taux de réussite au brevet de 48,8%. Et Dieu sait que tu connais bien les chiffres.
Oh oui.
Donc, ton directeur de campagne, Skynet, dit « Est-ce que ça te dirait de rencontrer les élèves, et moi, j'organise la venue des caméras de télé, surtout CNews, tu vois, qui aime bien ça. Et tu nous expliques ton projet pour l'éducation. Ça te branche ou pas ?
Bien sûr. Bien
Alors,
sûr.
Tu rencontres ces jeunes de Clermont-Ferrand qui disent un politique, ils viennent pas souvent à Clermont-Ferrand. Monsieur, vous voulez, on peut jouer aux jeux vidéo ? Dites-nous.
Alors déjà, je leur achète à chacun des consoles et des ordinateurs.
Voilà. Des consoles à tout le monde.
Des PC gamers dernier cri.
D'accord. J'aurais bien aimé avoir Jules Dequisse qui me dit aujourd'hui à Clermont-Ferrand, Charles est arrivé. Mais quel type de console ?
Quel type de console ? Ouais. Ah, quel type de console ? des Switch. Oui, des Switch, c'est bien. Ça fait pas trop riche, tu vois.
Ok. Voilà.
Et plus de goût en console qu'en politique.
Et évidemment, ça me désole de voir ce taux de réussite au bac, car je suis pour une forme d'élite en France. Mais pour avoir une forme d'élite, il faut avoir des chances d'accéder à l'élite.
Je prends un super riche dans la main, mais vas-y. Voilà.
J'ai eu la chance, moi, d'avoir l'ascenseur républicain, l'ascenseur démocratique, mais aussi de voir à quel point le système actuel est un système qui est le système d'un autre temps. Voilà. Notamment des systèmes à base d'égalité, qui fait que tous les enfants, toutes les régions, toutes les villes sont traitées de la même manière, avec un enseignement descendant, à sens unique. Quelque chose qui est vraiment archaïque, mais qui est tellement humain, finalement. Alors qu'avec la technologie, on pourrait remplacer des kilos de livres ankylosés et fixes par des tablettes très légères et évolutives. On pourrait remplacer un enseignant qui ne fait que déblatérer pendant 2 heures en attendant qu'on note, par un enseignant qui ne fait qu'écouter et discuter sur des connaissances qu'on a acquises le soir même sur ces tablettes. On pourrait avoir des corrections, on pourrait avoir personnalisé, on pourrait avoir des liens personnalisés, on pourrait avoir des formations, des spécialisations au cours de l'année, on pourrait avoir des vrais contrôles continus au lieu de cet enfer qui est le bac, qui est un peu pour moi l'élection présidentielle de la scolarité. Bref, moi président, et j'utiliserai évidemment cette très belle ville comme ville laboratoire, je numériserai l'éducation. J'enverrai balader tous les vieux lobbies hein, que sont Nathan et autres éditeurs d'ouvrages papier et je donnerai l'élite à tout le monde.
Alors, tu es en duplex avec une journaliste de CNews qui dit, donc tu as une petite oreillette et là tu as un éditorialiste très à droite, très très à droite, qui, on va imaginer Zemmour si ce n'était pas présenté, qui s'appelle François Malocena, que je l'ai pris sur... donc François, on l'appelait François.
Un sub rentable.
Voilà, et François il dit... c'est n'importe quoi. Les tablettes, on a déjà donné des milliards qui sont partis dans le vent. Ça n'a pas marché. Moi, la seule chose que je propose, c'est retour au collège du 19e siècle, blouse grise obligatoire pour tous, du par cœur, des dictées, des grands textes, de l'autorité. Voilà ce que je dis. Et je prends d'ailleurs un retraité dans la main parce qu'ils écoutent en ce moment CNews. Et voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ce François Malocena ?
Alors, François, déjà, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. On va dans les mêmes soirées. François, je suis d'accord avec toi, bien sûr. La discipline, l'uniforme, tout cela, bien sûr, je suis d'accord. Mais ensuite, tu sais très bien qu'aujourd'hui, l'humain a ses limites, le papier a ses limites. Et on le voit, le bac, on tente de le rendre plus facile chaque année. J'ai l'impression que c'est comme si c'était le mode easy du jeu vidéo généralisé à tous les écoliers. Et pourtant, on voit aussi que le taux de réussite au bac, malgré les trucages des différents gouvernements pour essayer de le faire monter, baisse dans certaines régions. Il y a un constat, François, il faut savoir à un moment...
Donc à la fois de la blouse et du par cœur, mais aussi du numérique.
Bien sûr. Et puis, il faut tryhard de la vie un peu quand même. Voilà.
Donc, eh ben, écoute, tu gagnes un retraité et un super riche, puisque tu es l'alliance des deux. Mais peut-être y aura-t-il un retour de bâton. En tout cas, je le note, Charles. Voilà. Et enfin, excuse-moi, Marcel, dis-moi un chiffre entre 1 et 52.
Le 27, bien sûr.
Alors, ça s'appelle « Crier au loup ». Le code, c'est... J'ai un code de régie que j'appelle Calvados, parce que ça se passe dans le Calvados. « Crier au loup », Calvados, voilà. Alors, tu es en visite, tu es du côté de Bayeux, si je me souviens bien. Attends, ne bougez pas. Donc, tu es à Bayeux pour faire ce qu'on appelle une déambulation. Tu vas dans la rue et tu rencontres des gens. Et il se trouve que tu es interpellé par un éleveur de moutons qui est sur place. La régie, que dit cet éleveur de moutons ?
Nous, on est des honnêtes bergers. Et vous savez ce qui s'est passé ce matin ? Un loup. Ouais, un loup. Ici à Bayeux, dans le Calvados, qui a égorgé 2 moutons. Vous savez, c'est pas simplement de l'argent. Nous, les agriculteurs, on est attachés à ces animaux. Ça nous fait du mal de voir que ces prédateurs rôdent. Ils sont partout. Et si demain, ils s'attaquent à un enfant ?
Il te dit ça. Qu'est-ce que tu réponds ?
Écoutez, C'est une question importante. C'est une question importante et je crois qu'il faut être à la fois attaché à la biodiversité, au retour de nos beaux paysages, les paysages d'antan qui font la richesse de notre pays. C'est important. Et en même temps, il faut écouter les craintes et les douleurs des éleveurs. Alors déjà, pour commencer, les loups n'attaquent pas les êtres humains. Les cas n'existent pas. Ils n'existeront jamais. On peut entendre les peurs, bien sûr, mais il faut savoir raison garder vis-à-vis des peurs. Ensuite, il soulève, cet auditeur, une question importante. C'est vrai que, bon, bien sûr, nous allons continuer de réintroduire le loup. Le loup a toute sa place en France pour retrouver.
Quoi ? Alors, il y a des éleveurs qui disent, vous savez qu'il y a plus de 628 loups en France ? Vous savez qu'on en a même vu à côté de Paris, dans la région parisienne ?
Mais écoutez, 620 loups sur le territoire complet de la France, on devrait pouvoir gérer. Mais l'important, ça n'est pas, comme certains inconséquents, de dire, oh, le loup, c'est beau, et puis on va rien faire derrière. Ou alors, comme d'autres, oh, on va tuer tous les loups, les espèces de forcenés avec leurs balaélettes. Non, il faut être conséquent. Donc moi, ce que je dis, c'est oui au loup, bien sûr, parce que c'est important de garder nos paysages, la biodiversité, de valoriser la planète. Et en même temps, il faut entendre la douleur des éleveurs. Il faut entendre que c'est difficile pour eux et que derrière, il y a des dommages matériels. Donc, avec mon projet de collectivisation des ressources, de nationalisation de l'économie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser une partie de l'argent qu'on prend aux milliardaires. Je parle pour vous, monsieur Despy, aux milliardaires. On va utiliser une partie de cet argent pour indemniser les honnêtes bergers qui veulent faire quoi ? Qui veulent faire leur travail. Honnêtement, sincèrement, ils aiment leur métier. Eh bien, nous allons les aider, les accompagner et en même temps, on valorise nos paysages, bien sûr.
En tout cas, tu perds un entrepreneur, mais je vois que tu l'as mis en militant. C'est donc, bon. Tu ne peux pas le perdre et tu gagnes un bobo.
Moi, bien j'ai joué. Pris une balette gratos là, dans l'histoire quand même. je tiens à dire.
C'est pas la dernière.
C'est le moment. Excusez-moi, alors j'ai perdu les... C'est le grand moment des débats. On va faire trois débats aujourd'hui, deux petits débats. Ouais. Donc là, il y aura cinq voix en jeu, cinq voix à gagner. Donc ça peut, les deux petits débats. Et le dernier débat, c'est 10 voix. Attention, pour le numéro 2, il y a aussi des voix à gagner. Et également, vous vous souvenez, les casseroles, vous pouvez vous les prendre. Et voilà. Donc, le premier grand débat vous se passe sur Radio France et France 2 en direct. Vous êtes tous réunis. Vous êtes tous les quatre, en tout cas. Et c'est un débat qui a pour thème, grand thème, le salaire et l'emploi.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.